Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Bonjour auditrices et auditeurs de ce brassage dont le thème sera consacré à la fraude fiscale, notamment abordé par un invité que nous avions reçu dans un précédent brassage, à savoir Roland Hesch. Mais auparavant, en ce mois d'octobre 2024, eh bien, je voudrais vous donner trois infos. Alors, d'une part, eh bien, début octobre, c'était donc le 4 octobre sur France Info, le matin, un économiste expliquait que taxer les bénéfices des plus grandes multinationales qui faisaient un chiffre d'affaires au-delà d'un milliard, eh bien, et que sur les profits n'allait pas rapporter grand-chose car elles étaient passées expertes pour les dissimuler dans d'autres pays, y compris européens, qui taxent beaucoup moins les profits. Et nous avions dans le Que choisir d'octobre 2024, justement, un de ces moyens pour se soustraire à l'impôt sur les bénéfices. À savoir, par exemple, une filiale de multinationales logée dans un paradis fiscal a de fortes chances d'être une cash box. Donc, une structure qui facture aux autres filiales des prêts à haut taux d'intérêt ou des royalties. Ces entités réduisent ainsi artificiellement leurs bénéfices dans des pays à fort impôt sur les sociétés. Donc, et en matière de fiscalité, eh bien, justement, ce numéro d'octobre de 60 millions de consommateurs, entre autres, abordait la question des banques, à savoir votre banque vertueuse. L'argent n'a pas de morale, donc, entre autres, avec les paradis fiscaux, BNP, Crédit Agricole, Société Générale, les grands groupes épinglés. Les banques publient leurs profits pays par pays, pays comme la Banque Postale qui place 90% de ses recettes dans l'Hexagone, donc en France, quand la BNP Paribas et la Société Générale sont à moins de 15%. Et pour terminer, dans le numéro de Télérama de la deuxième semaine d'octobre 24, il signalait un podcast, donc vous allez avec vos petits doigts sur franceinter.fr. Le titre c'est donc « Taxer les ultra-riches ». Où Cécine Duflo, qui est donc la directrice générale d'Oxfam France, une ONG, et qui rappelait que ce qui était proposé par cette ONG, donc à savoir l'impôt sur l'héritage, ne concernait que les sommes au-delà de 13 millions d'euros et que l'immense majorité des Français, et je pense également de ses auditeurs d'RCN, ne le paieront jamais. À présent, place à Roland Hesch, qui va nous parler de la fraude fiscale. Roland Hesch, qui va justement se présenter et que nous avons l'honneur, vraiment le plaisir à RCN d'accueillir, car il va pouvoir nous parler d'un des éléments de la justice en France, et ça concerne la fraude fiscale, mais il faudrait plusieurs émissions pour parler de tout ce dont il pourrait justement nous enseigner concernant ce domaine essentiel à la vie citoyenne. Bonjour Monsieur Roland Hesch.
Bonjour.
Alors, présentez-vous parce que vous avez eu tellement de fonctions.
Je vous remercie déjà pour vos gentils mots d'accueil. Et donc, je m'appelle Roland Hesch, j'ai 74 ans et j'ai exercé pendant 42 ans et demi le métier de magistrat de l'ordre judiciaire. Dans ce métier absolument passionnant, j'étais une vingtaine d'années magistrat du parquet, c'est-à-dire procureur de la République, et 22 ans magistrat du siège, notamment président du tribunal judiciaire de Nancy, où j'ai terminé ma carrière. Je suis donc désormais magistrat honoraire, c'est le mot politiquement correct pour dire retraité.
Voilà. Vous voyez, donc, d'où l'importance que l'invité se présente lui-même. Magistrat honoraire. Alors, honoraire, mais pas sédentaire. Enfin, sédentaire dans le sens où vous êtes un peu itinérant parce que justement, vous revenez sur Nancy régulièrement et c'est comme ça que j'ai fait votre connaissance.
Mais c'est tout à fait vrai. Le sens de magistrat, l'étymologie du mot honoraire signifie que vous appartenez encore au corps de la magistrature, bien que vous ayez atteint l'âge de la retraite, et que si jamais vous souhaitez poursuivre un genre d'activité, vous pouvez postuler. Et on peut à nouveau prendre par exemple comme assesseur de correctionnel ou président du bureau d'aide juridictionnelle, des tâches qui sont très importantes et qui soulagent, si c'est des honoraires qui les prennent, qui soulagent les collègues en poste, qui eux peuvent faire autre chose pendant ce temps-là.
Est-ce que vous êtes, en tant que magistrat honoraire, également toujours soumis à l'obligation de réserve que vous avez l'obligation de respecter quand vous êtes en activité ?
Alors, sur l'obligation de réserve, c'est effectivement, ça fait partie des règles déontologiques des magistrats. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que quand on est en fonction, ça peut parfois prêter à confusion si on a le droit d'avoir des avis citoyens qui sont pas forcément ceux d'un juge ou d'un procureur dans le cadre d'une affaire. Hein. Mais je trouve que c'est une limite à l'expression qui ne devrait pas poser trop de discussions. En revanche, on n'est plus, quand on est plus en service, en réalité, je pense que, enfin moi personnellement, je dis ce que j'ai envie de dire et ce qui me semble important de dire maintenant que je suis à la retraite, mais que je n'aurais peut-être pas dit quand j'étais en fonction.
Et puis, ce que vous dites, surtout, c'est largement étayé. Alors, c'est pour ça, auditrice et auditeur de Brassage, que je suis vraiment contente que Monsieur Hesch soit parmi nous, parce que l'année prochaine, il n'y aura plus ces cycles de conférences au Cercle du Travail. Et je me suis dit, au moins sur un des thèmes qu'il a abordé tout au long de ce cycle de 2023-2024, à savoir la fraude fiscale, au moins qu'il y reste un peu la substantifique moelle de ces conférences, c'est-à-dire vraiment les choses les plus essentielles, puisque ce n'est pas en quelques, en une heure de temps qu'on va vous balayer déjà ces heures et ces heures de conférences qui n'étaient pas entrecoupées de pauses musicales. Et d'ailleurs, les pauses musicales sont proposées, j'ai proposé à Monsieur Hesch d'avoir quelques morceaux qu'il affectionne, et c'est lui qui a choisi ces pauses musicales. Alors, justement, je vais lui laisser. Moi, ça m'a fait sourire quand j'ai entendu le morceau que vous souhaitiez. Parce que, bon, je pense que, même si ce n'était pas illégal, mais Johnny Hallyday, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ce n'est pas illégal. Hein, c'est, voilà, c'est des règles du jeu interne, j'allais dire à l'Europe, mais la Suisse n'en fait pas partie. Et donc, première petite pause musicale avant d'avancer dans le vif du sujet de la fraude fiscale. Vous nous proposez un premier morceau.
Oui, alors c'est effectivement Johnny Hallyday. Qui, comme citoyen, quel est le citoyen dont le comportement, un jour ou l'autre, peut prêter à question, hein. Je pense que l'ambiguïté fait partie de la nature humaine et que, ma foi, il ne faut pas prendre des positions trop tranchées. Hein. Sur la fraude fiscale, on y reviendra, mais moi, ce que j'aime beaucoup chez Johnny, il est de ma génération, hein. Enfin, il est un peu plus vieux que moi, mais moi, j'ai la musique, j'aime beaucoup la musique, tout genre de musique, hein, classique, rock, et même musique contemporaine, je me force un peu, mais j'aime beaucoup. Et Johnny, je trouve que c'est un interprète remarquable.
Remarquable, ça.
Et c'est surtout, un fait. Il fait passer dans de l'émotion, des affects, et notamment dans l'envie. Les phrases qu'il dit, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Moi, j'ai toujours mis ma vie professionnelle et même personnelle sous ce signe-là. Aller de l'avant, avoir envie, pas de défaitisme. Pas. Et cette chanson m'a parlé la première fois que je l'ai entendue il y a des dizaines d'années. Et je la réécoute assez régulièrement, maintenant que Johnny est parti, parce que justement, ça a été un des axes de ma vie aussi, la motivation.
C'est un élan vital.
Voilà, absolument.
Que nous allons à présent entendre.
Mmh. me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, qu'on me donne le jour. J'aime la nuit pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie.
Brassage sur RCN, Hélène Ingret.
Brassage consacré à la fraude fiscale que M. Roland Hesch, donc magistrat honoraire, ancien procureur procureur de la République.
Oui, c'est
oui,
ça.
Voilà. Va pouvoir nous dresser déjà un peu le plan de ce qu'il va nous énoncer au fil de cette émission de brassage. Et c'est une synthèse des différentes conférences qu'il a pu faire entre 2023 et 2024 au Cercle du Travail à Nancy. Alors bien, maintenant, moi, je n'ai plus rien à faire, à vous.
Merci. Et donc, chaque année, dans le cadre de mes conférences que je fais depuis une dizaine d'années à Nancy, au Cercle du Travail, j'avais une ligne directrice, une thématique, et je déclinais, toujours en partant de ma propre expérience professionnelle et des différents codes qui régissent donc la matière. Je parlais tantôt de la drogue, tantôt de la délinquance juvénile.
Les grandes affaires criminelles
du XXe siècle, dont Simone Weber, avec mon ami Gilbert Thiel. Et donc, cette année, À la demande d'ailleurs de nombre de mes participants, qui sont d'une fidélité remarquable.
Et la salle était comble, puisqu'il n'y aura plus de conférences ensuite.
J'ai proposé donc l'étude de la délinquance et de la criminalité économique et financière. Sur puisque j'avais commencé pour finir Simone Weber, à partir du mois de novembre, sur 9 conférences, on a décliné d'abord les grands groupes criminels dans l'économique et le financier, qui regroupent d'ailleurs aussi la drogue. Hein. C'est lié.
Oui.
Et donc les cartels, les mafias, les trusts, les consortiums, en donnant des définitions de toutes ces structures et en faisant un schéma du financement ou du placement de l'argent sale, du blanchiment, donc de l'argent sale parce que d'origine criminelle, dans les sociétés offshore, qui sont les paradis fiscaux qui permettent effectivement de mettre à l'abri de l'argent, souvent des sommes colossales, qui proviennent de la criminalité et de la délinquance.
Oui, alors c'est ça qui est assez fantastique, parce que dans votre présentation initiale de ce domaine, vous dites bien, bah, c'est vrai, vous, auditrices et auditeurs qui nous écoutez, bah, on est surtout en kikini à la limite, je ne sais pas moi, si on vous a volé votre portable, si on a fait du cambriolage, si on vous a rayé votre voiture, c'est la petite délinquance, c'est celle-là qui occupe 99,99% des faits divers, et quand on parle d'incivilité, de délinquance, on pense à cette délinquance, je dirais presque domestique, hein, alors que la supra, moi j'appelle ça la supra-délinquance, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est des autres sommes, on est dans la cour des grands, quoi. Vous en termes de
dollars ou d'euros, oui. Parce que c'est dans ces domaines-là. Mais vous avez tout à fait raison de le souligner.
C'est vous qui l'aviez souligné, j'ai trouvé tout ça très intéressant.
La délinquance économique et financière, en fait, elle est invisibilisée.
C'est ce
chez les professionnels, sauf, bien sûr, ceux qui s'en préoccupent par profession, les avocats, avocats d'affaires, avocats financiers, les juges spécialisés, les procureurs spécialisés, les parquets nationaux financiers, etc. Mais pour tout le reste, pour le citoyen lambda, ça ne touche pas. Ça n'équivaut pas, bien sûr, à un crime de sang, qui est fait divers, qui est relayé immédiatement par tous les médias. C'est souterrain, c'est invisible, et donc on n'en a pas vraiment conscience. Or, quand on s'en occupe, on se rend compte que les dégâts financiers, c'est les pires. C'est la délinquance économique et financière, le blanchiment de l'argent sale, qui, en fait, empêche les États d'avoir des sous pour la redistribution, pour l'assurance, la sécurité sociale, etc.
Pour les hôpitaux,
pour l'enseignement, pour l'armée, pour la défense, etc. Donc, il y a toutes ces organisations criminelles qui échappent à l'impôt, qui se font, passez-moi l'expression, elle est triviale, mais un pognon de dingue, et qui ne sont pratiquement jamais sanctionnés. Parce que pour trouver et établir les mécanismes de la fraude, les qualifier juridiquement, ensuite faire tenir les dossiers au niveau de l'accusation et ensuite de la condamnation, c'est un travail de titan.
Alors justement, c'est ce que vous nous aviez montré d'une façon synthétique, hein, parce que là aussi, il y a des magistrats qui planchent des années sur tel et tel dossier. C'est sûr qu'en une heure de temps, on est obligé de synthétiser. Vous nous aviez montré cette complexité, par exemple, que l'argent, il va très vite. Hein, vous disiez, je ne sais plus, vous aviez eu une expression là tout à l'heure, et alors que la justice, oui, elle est obligée de respecter des règles du jeu, sinon on vous attaque sur la virgule,
voilà,
qui est mal placée.
Absolument. La procédure, il faut respecter la procédure. Et les truands, en l'espèce les truands d'économique et financier, pas le grand banditisme, hein, mais les truands en économique et financier, ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous, parce qu'eux, ils ne sont pas tenus par des règles de procès, au contraire. Il les viole et allègrement. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que la justice va à pied Tandis que ces gens-là, ils ont des jets, des missiles, et bien sûr, ils ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Et pour qu'un juge d'instruction, et Renaud Van Ruynbeck, dans son bouquin « Offshore, dans les coulisses des paradis fiscaux », le dit très très bien, et l'a très clairement analysé, ces gens-là, quand ils mettent en place leur système, ils font en sorte que ils ne laissent pas de traces. Et que pour retrouver les traces, déjà au départ de l'enquête, la police, la gendarmerie, le procureur et plus tard le juge d'instruction, ils mettent un temps infini rien que pour tirer le premier bout de la pelote qui permet ensuite de dévider le mécanisme de la fraude fiscale. C'est ça qui fait qu'elle prospère.
Oui, il n'y a pas d'ADN financière en quelque sorte.
Non. Il n'y a pas. Et, premièrement, les délinquants, eux, sont très bien conseillés par des gens du monde des affaires, des banquiers, des économistes, enfin bon. Ils sont non seulement bien conseillés, mais ils ont à leur service, ils payent des gens qui trouvent les systèmes à utiliser pour échapper à l'impôt, pour dissimuler, etc. Alors que, pour la répression, on n'a pas suffisamment d'enquêteurs, d'officiers de police judiciaire, que ce soit la police ou la gendarmerie. On n'est pas assez nombreux. Hein. Ils ne sont pas assez nombreux. Les magistrats, le parquet national financier, c'est bien qu'il existe, mais il est obligé de s'arrêter. Il a rendu de grands services depuis qu'il existe. Hein. Il a sorti pas mal d'affaires. On a récupéré déjà, en faisant condamner des gens sur les dossiers faits par le parquet national financier, on a récupéré quelques milliards. Mais ils sont obligés de laisser tomber des affaires parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils n'ont pas le personnel suffisant.
Les affaires seraient tout à fait...
C'est pas traité.
Ce n'est pas traité
parce qu'on n'a pas les moyens, ni en personnel, ni en temps, ni en argent, bien sûr. On a beaucoup, beaucoup de difficultés. Pour vous donner un exemple, une des solutions qu'ont développées les juges, c'est quand le dossier tient, que le procureur a pris ses réquisitions, que la défense a eu la parole en dernier et qu'il faut juger. Si on déclare coupable l'individu, par exemple, de fraude fiscale, corruption, détournement d'argent public, etc., on peut bien sûr condamner à des peines de prison, à des peines d'amende, à des peines d'inéligibilité si ce sont des personnalités politiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de confisquer les sommes qui ont été saisies dans le cadre de l'enquête, les biens, meubles, immeubles, voitures, avions, bateaux, etc. Mais on a mis beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à cette conclusion en disant que ce serait bien. Et même encore aujourd'hui, on peut parfois confisquer, mais parfois on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas si ces sommes appartiennent réellement à celui qui a été condamné ou pas. Donc vous voyez, il y a des problèmes techniques qui font que ce qui est bien, c'est de les toucher effectivement au portefeuille. Les sanctionner par là où ils ont péché, comme on dit. Mais la difficulté, c'est justement de le prouver et de l'établir.
Oui, et puis ils ont mis là aussi des écrans. Par exemple, un yacht sera acheté, disons officiellement, le papier que vous aurez en main, ça ne sera pas M. Tartampion qui a fait la fraude fiscale. Pour ne pas citer d'autres grands crimes.
Une de mes conférences porte comme titre l'international du blanchiment, c'est celle d'aujourd'hui, hein, entre dictature sanglante et oligarchie. Et donc là, je parle notamment des biens des oligarques qui, dans le cadre de l'agression russe contre l'Ukraine, ont été mis sous scellé, saisis dans le cadre d'enquêtes pour de sanctions contre la Russie. Hein. Sanctions internationales, et entre autres françaises, mais aussi d'autres pays. Elles sont saisies. Et elles sont mises sous scellé, donc à disposition de la justice. Mais elles ne sont, en l'état, les enquêtes sont en cours, hein, elles ne sont absolument pas à la libre disposition de la justice. On ne peut pas en l'état, les confisquer. Parce qu'on n'a pas encore établi qui est le véritable propriétaire. Des yachts, des hélicos, etc.
Des appartements.
Des villas sur la Côte d'Azur.
Plutôt qu'en Lorraine.
Voilà. Et non, mais c'est moi, c'est ça qui, quand j'ai exercé, me tordait parfois le ventre. Hein. C'est qu'on a sous les yeux la fraude. Elle est là, elle est visible. Mais on ne peut rien faire en l'état, pour l'instant, tant que le dossier n'est pas complètement bouclé, on ne peut rien faire pour la sanctionner, pour l'empêcher.
Et donc, il y a des personnes très compétentes qui, justement, regardent la virgule mal placée, le papier qui manque pour saisir la chose, qui vous permet, qui vous muselle en quelque sorte.
C'est le respect de la procédure. Hein.
Et en même temps, on est dans un état de droit.
Absolument. J'allais dire, vous avez tout à fait raison. Si on se désengage du respect de la procédure, en fait, on va sur le terrain des délinquants. Et c'est inaudible pour un magistrat. Donc, il faut respecter la procédure. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de faire des propositions aux législateurs, les députés, les sénateurs, pour qu'ils votent des lois qui nous permettent d'intervenir plus rapidement et plus efficacement contre ce type de délinquance. Je pense notamment à l'aspect qui a été soulevé par la presse un peu spécialisée en matière économique et financière, les intérêts des sommes des oligarques, par exemple, hein, mais ça peut être aussi des bandes criminelles en matière mafieuse pour le trafic d'armes ou le trafic de drogue, enfin, toutes sortes d'infractions, enfin, de comportements parfaitement illégaux, hein, qui tombent sous le coup de la loi pénale. Ce qu'on pourrait faire, c'est que les sommes saisies, les comptes bloqués, parce que la liquidité, c'est pas le cas, mais les comptes qu'on bloque, on empêche les titulaires d'accéder. Les intérêts qu'ils produisent, il faudrait d'office, sans qu'il y ait besoin d'une procédure particulière, que tous les intérêts produits sur ces comptes publics bloqués puissent être récupérés par les pouvoirs publics, par l'État, par le fisc français, par exemple, si c'est en France, et mis à distribution alors pour le fonctionnement de la société civile. Et ça, on ne l'a pas encore voté. Mais ça, c'est une solution qui, à mes yeux, serait parfaitement efficace.
Et puis, au même titre, il y avait eu un chiffrage qui avait été fait par rapport aux contrôleurs fiscaux. Combien, alors de mémoire, c'était dans Libération il y a quelques années, puisque ça fait depuis au moins, alors quelle que soit la couleur politique, hein, entre nous soit dit, que ce soit à la droite ou le Parti Socialiste, ils ont eu de cesse à réduire le nombre de fonctionnaires, notamment dans l'administration fiscale, et il avait été signalé, chiffré, combien coûtait, alors je vous le fais un peu à la louche, auditeur de Brassage, et c'était de l'ordre de 40 000 euros, le salaire d'un contrôleur ou d'une contrôleuse fiscale, avec son salaire plus les cotisations sociales, ce que ça coûtait entre guillemets à son administration, et il en ramenait dans les caisses 20 fois plus. Donc, quand vous parlez, vous, du parquet national financier, je pense que ce chiffrage pourrait être largement calculé. C'est-à-dire, il y a combien, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, combien il y a de magistrats ? Parce qu'il n'y en a qu'un seul des parquets nationaux, puisqu'il est national. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de déclinaison régionalement ?
Non. Le parquet national financier, ils sont une vingtaine, de magistrats, sous réserve. Hein.
Oui, c'est un ordre de grandeur.
Oui, voilà. Et c'est eux qui ont vocation à traiter les dossiers de délinquance économique et financière, les plus... qui vont jusqu'à l'international, enfin, qui nécessitent des recherches approfondies, spécialisées, et surtout de la coopération entre les États. Ça, c'est effectivement, c'est un bien qu'on ait mis à Paris, enfin nationalisé, parce que on est plus efficace là.
Parce qu'il faut être compétent. Ben voilà. Il faut savoir au minimum lire un bilan
déjà savoir à qui s'adresser, par exemple, pour envoyer une commission rogatoire internationale dans un paradis fiscal. rédiger cette commission rogatoire internationale pour les juges d'instruction spécialisés ou une réquisition pour un procureur du parquet national financier. Il faut déjà savoir quoi mettre dedans, à qui l'adresser et ensuite savoir où appuyer pour le retour. Parce que...
Alors, eh bien, moi j'ai l'habitude de faire préciser des termes. D'ailleurs, vous le faites régulièrement dans vos conférences. Mais pour nos éditeurs, quand commission rogatoire.
Alors, la commission rogatoire, c'est un document, une demande d'enquête que le juge d'instruction qui est saisi du dossier de délinquance économique et financière envoie aux policiers, aux officiers de police judiciaire, policiers ou gendarmes qui enquêtent sur ce dossier et qui leur demandent d'effectuer un certain nombre de choses, des perquisitions, des, éventuellement des découvertes de comptes dissimulés, des auditions, des confrontations, des planques parfois, toutes sortes de choses quoi. Et ces documents peuvent être envoyés soit sur le territoire national, c'est une commission rogatoire simple, soit en pays étranger, et ça devient commission rogatoire internationale. Alors ça peut aller jusque, par exemple, au Panama.
Alors, est-ce que la justice, dans ces cas-là, puisqu'effectivement, si les délinquants vont dans ce type de pays, c'est parce qu'effectivement, ils sont très bien accueillis, mais... Les systèmes judiciaires dans ces pays-là, est-ce qu'ils sont sur la liste des États terroristes internationaux ?
Non, c'est pas des États terroristes. mais il existe effectivement une liste noire qui a été établie par le Conseil de l'Europe. Il y a une liste noire des paradis fiscaux, où le Panama figure d'ailleurs. Hein. Cette liste noire des paradis fiscaux... pose effectivement des problèmes très très importants. Et mon ami Renaud Van Rienbeek, le juge d'instruction, qui a fait beaucoup d'affaires économiques et financières, qui a instruit beaucoup d'affaires, le dit très clairement dans son bouquin. Ce sont des pays qui parfois ont signé toutes les conventions de coopération et d'entraide internationale criminelle.
Alors, vous anticipiez ma question, parce qu'il y a des pays... qui ne vous répondent pas parce qu'ils n'ont pas signé ces accords internationaux, donc ils sont tenus à rien. Mais en plus, ces pays-là, ils ont...
Je ris, mais ne pas en pleurer, comme disait l'autre. Mmh. Mais effectivement, ces pays-là ont signé, la plupart d'entre eux ont signé, il y a même des pays très proches de la France hein, qui ont signé, et qui sont de notoriété publique, encore des refuges pour l'argent illégal. C'est un double avantage, parce que c'est bien sûr l'hypocrisie, le vice, le double langage, parce qu'en signant les conventions internationales, ils participent à toutes les réunions, tous les congrès, où se dispersent, sont énoncées les directives qu'on met en matière de lutte contre
donc,
l'économie et le financier.
Donc ils peuvent bien s'informer.
Voilà, ils viennent s'informer. Et ensuite... Ils tolèrent quand ils ne participent pas activement, ils restent passifs, mais ils tolèrent l'existence de paradis fiscaux, de sociétés offshore sur leur territoire. Ils ne font rien pour empêcher ou enrayer leur fonctionnement. Et donc, ils ne répondent pas aux commissions rogatoires internationales, ils font traîner. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'en parlerai tout à l'heure dans ma conférence, que les journalistes, comme vous, ont un rôle tellement important dans la lutte contre cette délinquance économique et financière. Pour preuve, le phénomène des Panama Papers, qui ont sorti, effectivement, c'est un consortium de journalistes internationaux, 108 personnes, hein, 108 médias qui ont sorti ça, et qui citent, y compris des Français riches, qui ont placé leur argent dans les paradis fiscaux, fraude fiscale, pour ne pas payer l'impôt en France. Et donc, si on n'avait pas des gens qui débusquent ça, qui déblayent le terrain, on ne saurait jamais.
Alors, je vais quand même faire une petite précision parce que notre invité Roland Hesch à DRCN donc, a fait une petite erreur. Je ne suis pas journaliste, je suis une simple animatrice, mais surtout... justement, eh bien, ça permet d'entendre des propos tels que notre invité vient de nous déjà signaler des choses essentielles. Eh bien, on va se faire une petite pause musicale, parce qu'heureusement qu'il n'y a pas que cette grande criminalité, et vous nous proposez de la musique classique, comme quoi vous êtes très éclectique sur le plan musical, et ce sera...
Ce sera concerto pour clarinette de Mozart, avec le charme indéfinissable du son de la clarinette.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Eh oui, c'est beaucoup moins aérien, hein, vous disiez, Monsieur Hesch. Donc notre invité Roland Hesch, qui nous parle de la fraude fiscale et qui a choisi ce morceau de Mozart, vous disiez, c'est...
Ah oui, c'est... Effectivement, c'est le monde dont nous parlons, de la délinquance et de la criminalité économique et financière, c'est un monde qui présente une violence. Une violence qui n'est pas perceptible par le commun des mortels, mais qui est réelle, parce que de l'argent qui s'en va à l'étranger, c'est autant d'investissements en moins, pour ce qui concerne la France, dans les services publics, les hôpitaux, l'éducation, etc. Et donc, que la musique apaise un peu les mœurs, ou nous rende un peu sereins, C'est pas plus mal parce qu'il faut beaucoup de sérénité pour juger ce genre d'affaires.
Hein. Oui, et puis je pense qu'en plus, eux, ils sont dans des hôtels, enfin disons, ils écoutent cette musique très douce, en toute bonne conscience, je suppose, en plus, la plupart. Hein, parce que
Est-ce que c'est vrai?
Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de remords pour des personnes qui ont été condamnées, qui sont exprimées. Ils ont le remords de s'être fait piquer.
Ah non, non, ça, enfin, à ma connaissance, il y en a très peu. Hein. C'est pour ne pas dire zéro. Mais non, non, ça, ce qui motive ces gens-là, c'est l'appât du gain, c'est le culte de l'argent. Il faut qu'il y ait de la rentabilité, etc. Donc, il faut pas s'attendre. Et d'ailleurs, à titre personnel, hein, en tant que magistrat, j'attends pas de confession ou de remords, de repentir. Je n'en attendais pas quand je jugeais ce type d'affaires. Hein. C'est déjà bien si les intéressés reconnaissent les faits.
Alors que vous alignez toutes les preuves.
Oui, oui, bien sûr. Quand on arrive à réunir les preuves, il est quand même difficile de contester. Hein. Encore faut-il, comme on a dit, réunir les preuves. Mais bon, souvent, ces gens-là sont outrés qu'on les poursuive.
Ah oui, oui, eh ben c'est de la... C'est vraiment inélégant.
Ben, arriver sur le banc des accusés ou en correctionnel, enfin des prévenus, c'est la honte, quoi. Hein. Et donc, il y a des gens qui supportent ça très très mal et qui sont dans le déni. Je dis souvent qu'il n'y a pas, au niveau de la mentalité, hein, il n'y a pas beaucoup de différence entre le petit truand, voire le gros truand, le gangster, le voyou, et les délinquants économiques et financiers, ou les criminels, parce que ils sont prêts à vous jurer sur leur honneur déjà bien bafoué que c'est pas eux, que ils ont été obligés, mais c'est pas de leur faute.
Et mal conseillés.
Ils sont dans le déni.
Mal conseillés alors qu'ils ont choisi leur avocat en toute connaissance de cause. Alors, justement, tout d'abord, par rapport à ces personnalités, alors vous avez fait des conférences sur des grands délinquants français, hein, donc, mais celui justement, parce que dans le genre droit dans les yeux, je vous le dis, hein, c'est un peu ça, et qui a été à l'origine de cette création du parquet national financier. Est-ce que vous pouvez quand même nous toucher deux mots de ce ministre? Enfin, ça, c'est quand même...
Oui, bah, c'est l'ancien ministre du budget, quand même. Hein,
oui,
Bon, il a été condamné, il a payé, entre guillemets, sa dette...
Une dette qui a été, entre nous soit dit, il faut avoir la lecture judiciaire que vous avez, la compétence, parce que comme il y a eu appel, il y a une condamnation qui a été plus forte, mais avec des modalités différentes qui lui ont permis, enfin, de faire sa peine de prison dans sa maison de secondaire en Corse, avec un petit bracelet.
Avec un bracelet électronique. On applique à lui comme à tous les...
Ah ben bien sûr, simplement que quand on lit le jugement, on pense que, comme il y avait une amende plus importante, qu'il avait été plus condamné, mais en fait, il y a eu des arguties.
Non, la sanction est à première vue plus importante,
voilà,
en année
c'est
de
ça.
Prison, mais il y avait la prison partie avec sursis. Il y avait effectivement une peine d'amende, mais bon, par rapport à ce qui avait été détourné, elle n'est quand même pas phénoménale. Et il a effectivement... je pense que la justice a passé, comme on dit. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Mais ce que moi, je déplore en tant que citoyen, c'est que un comportement comme ça... D'ailleurs, le premier juge l'avait dit, hein. Je l'ai dit dans ma conférence.
Tout à fait.
Il avait un devoir d'exemplarité, il était ministre du budget. Et donc, c'est lui-même qui avait annoncé à l'Assemblée nationale qu'il allait traquer sans pitié la fraude fiscale. Et donc, il a plus fait pour la décrédibilisation de la politique, alors que Dieu sait qu'on en aurait besoin, hein, d'hommes politiques qui tiennent la route, qui... on en aurait besoin par les temps qui courent. Hein. Et il a plus fait par son comportement pour la décrédibiliser que des bouquins entiers ou des éditoriaux sur la malgouvernance. Hein.
Alors que un fonctionnaire, par exemple, alors là je parle sous votre contrôle, mais un fonctionnaire qui a un devoir d'exemplarité, je pense par exemple à un policier, il a des fois des condamnations pour le même délit qui serait fait par un citoyen lambda. La condamnation est doublée, enfin est beaucoup plus forte, parce que justement il y a ce devoir d'exemplarité pour un fonctionnaire, simple fonctionnaire.
Ça peut arriver, hein. Encore que logiquement dans les critères d'appréciation de la culpabilité et ensuite de prononcer de la peine, le juge ne fait pas entrer le devoir d'exemplarité. Hein. Il y a uniquement la personnalité de l'auteur, la gravité du dommage qu'il a causé et le trouble à l'ordre public que ça a généré. Mmh. Hein. C'est peut-être là, dans cette notion de trouble à l'ordre public, qu'on peut voir un petit peu l'exemplarité. Mais c'est vrai que quand on est médiatisé comme nos hommes politiques actuellement, et qu'on s'y prête avec complaisance, c'est les temps que la société qui veut ça. Hein. Mais on a, me semble-t-il, en parallèle, la nécessité de se tenir droit. Quoi.
Mmh. Oui, ou à la limite, si on a ce type de comportement, ben, de passer son chemin, d'être ailleurs qu'un poste de ministre du budget. Alors, bon, eh bien, on lui doit quand même, parce que c'était tellement énorme, parce que toute son administration, enfin, disons, sur ses recommandations, sont montées, il y a eu quand même, ils ont monté au créneau au maximum en disant, mais ce que sort Mediapart, c'était Mediapart. Hein,
qui oui, avait, c'est ça, oui.
C'est, alors que Mediapart, quand ils sortent quelque chose, c'est que vraiment, ils ont des éléments pour le justifier.
Absolument.
Mais ça a duré quand même un certain temps avant que, hein, qu'ils puissent quand même reconnaître. Alors, il y avait la Suisse, il y avait des comptes en Suisse et puis également dans d'autres pays. C'est alors, bien. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça a permis aussi de mettre un peu plus de l'huile dans les rouages pour permettre de démasquer de débusquer cette fraude fiscale à la suite de cette grosse affaire, parce qu'elle a été vraiment médiatisée sur un plan même européen, au niveau justement des coordinations peut-être. Alors, avec au niveau
vous
judiciaire.
Vous abordez une question qui est encore un gros souci actuel pour les institutions judiciaires et policières. Policières, ça marche peut-être un peu plus, avec un peu plus de fluidité, compte tenu de l'existence d'Interpol, qui a son siège à Lyon, et qui fonctionne depuis des années. C'est rodé, quoi. Hein. Mmh. Donc, avec leurs notes rouges et tout, il y a des conditions de travail, des modes opératoires qui sont partagés par différents pays sur différents continents.
Mais c'est Interpol, c'est plus par rapport à une criminalité, je dirais un peu ordinaire comme la drogue,
oui,
les assassinats
ça.
Et tout ça, mais pas financière.
Non, c'est, mais on pourrait si quelqu'un est recherché, on peut le mandat d'arrêt international, on peut le soumettre à Interpol, y compris si c'est en matière économique et financière. Hein. Donc c'est Interpol qui le mettra en place. Donc ça, c'est pas mal. En revanche, chez les magistrats, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Il existe, bien sûr, ce qu'on appelle Eurojust, qui est un regroupement de magistrats, notamment du parquet, de différents pays. Hein. Ça fonctionne, en quelque sorte, par entente tacite. Quoi. Il n'y a rien de vraiment structuré. Ou en tout cas, on a beaucoup de difficultés à actionner ça.
Oui, et puis Eurojust, donc ça renvoie à l'Europe.
Oui.
On n'est pas loin du Luxembourg et la transparence. Alors, il y en avait d'autres. Hein, en Europe, vous citiez, donc, il y a le Luxembourg, mais il y a également...
Il y a Monaco, qui n'est pas loin, effectivement. Il y a Andorre. Il y a un tas de petits pays qui sont quand même, qui ont un produit national brut absolument extraordinaire par rapport à leur dimension. Et bon, ça, moi, je vais pas critiquer ces pays qui font... Le Luxembourg fait partie des pères fondateurs de l'Union européenne. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des facilités qui sont accordées dans certains pays européens et pas dans d'autres.
Voilà.
Donc, il n'y a pas d'unité de traitement encore. On n'a pas encore réussi au plan européen à s'unir. Mais ça, c'est le même principe au niveau judiciaire ou lutte pénale, hein, lutte contre la criminalité, qu'elle soit économique ou financière ou autre. Hein, la drogue ou les différentes traites de blanches, l'armement, enfin tout ce que vous voulez, les trafics de toutes sortes. Mais on n'a pas réussi à mettre quelque chose au niveau fédéral, enfin optique fédérale en Europe, c'est exactement comme la défense européenne. Même principe.
On va se faire une petite pause musicale avant que vous nous donniez quelques pistes bibliographiques. Et vous nous avez proposé en dernier morceau musical...
Ah oui, ben, Leonard Cohen. Alléluia.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Hallelujah! Hallelujah!
Brassage sur RCN, Hélène Ingret.
Brassage, hélas, qui se termine. Nous aurions tellement voulu poursuivre avec notre invité Roland Hesch, qui vient de nous parler de la fraude fiscale, de la criminalité. Le terme est plus intéressant, d'ailleurs, c'est criminalité. Il y a le terme crime, hein. Criminalité.
Économique et financière. Et délinquance économique et financière. Mais si vous ne m'arrêtez pas, moi, je vous parle.
Ah oui, non, mais voilà, mais nos émissions font 55 minutes. Alors, en revanche, avant de nous quitter, donnez-nous quand même deux références bibliographiques, parce qu'il y a à chaque conférence, vous en donnez à peu près une dizaine, celle d'un juge dont vous êtes ami et que vous nous avez déjà signalé, et puis le vôtre de livre.
Alors, le livre, si on est un peu intéressé par la délinquance économique et financière, le livre de l'ancien juge d'instruction qui est aussi maintenant magistrat honoraire, Renaud Van Ruinbeck. Mm. C'est Offshore, c'est son dernier bouquin là. Offshore, sous-titre dans les coulisses des paradis fiscaux.
Dans les coulisses des paradis fiscaux. Et puis, on peut aller aussi dans un labyrinthe judiciaire.
Voilà. Alors ça, c'est ma modeste production. C'est l'ancien président du Cercle du Travail, Université Populaire de Nancy, Armand Chapuis, qui m'avait demandé de mettre en page mes premières conférences sur le système judiciaire français, l'organisation judiciaire, les métiers de la justice et du droit. Et effectivement, j'ai sorti un petit bouquin qui est distribué par le Cercle du Travail, Porte Saint-Georges, qui s'appelle le labyrinthe judiciaire.
Et puis moi, je caresse l'idée que pour nous tous, auditeurs et auditrices aussi de Brassage, vous puissiez compiler tous les documents que vous nous avez fait passer à l'écran concernant tout ce cycle de conférences, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Là, on vous a mis juste un tout petit peu d'intérêt à la chose, mais c'est tellement intéressant. Donc, à défaut de pouvoir vous entendre, si vous pouviez nous léguer tous ces propos, ça serait vraiment...
J'en prends bonne note. Étant précisé que toutes les anecdotes avec lesquelles j'illustre les termes techniques et les propos de présentation de la justice sont des choses vécues. Hein. Il n'y a rien d'inventé. Hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est largement sourcé en plus. C'est largement sourcé. Merci encore à vous, Roland Hesch. Merci à Pierre Baudot pour cette mise en onde de ce brassage. À bientôt dans un prochain brassage sur RCN 90.7.